RFI, grand reportage.
Guillaume Cordeau.
Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion.
Des conditions de vie glaciales, moins 20 degrés. Toufik Benaïchouch, grand reporter à RFI, a suivi pendant une semaine un groupe de malvoyants et de malentendants en Sibérie. Le groupe a parcouru une centaine de kilomètres à ski de fond sur le lac Baïkal, entièrement gelé à cette période de l'année. Accompagnés de chercheurs et de scientifiques, les aventuriers ont montré une incroyable capacité d'adaptation. Comment appréhendent-ils le relief? Comment perçoivent-ils ce défi? Traversée du lac Baïkal, une expédition inédite par des non-voyants, c'est un grand reportage de Toufik Benaïchouch.
Le 25 février à Sloudianka, en Sibérie, au bord du lac Baïkal, où que se porte le regard, la neige et la glace. Plus de 31 000 km² de pureté étincelante, le Baïkal est long de 640 km, large de 80, avec une profondeur maximum de 1640 mètres. C'est la plus grosse quantité d'eau douce au monde. Tout a commencé dans une chambre d'hôpital à Strasbourg. Nicolas Linden, 33 ans, est atteint de spina bifida depuis sa naissance. Une maladie dégénérative qui survient avant la naissance, qui cause la paralysie et la perte de sensibilité des membres inférieurs. Le spina bifida cause aussi des problèmes de fonctionnement de la vessie. Il entraîne également des pertes de coordination des mains, de la vue et de l'ouïe. Nicolas.
Tu te retrouves enfermé un mois en plein été sans avoir droit de manger ni boire. Tu perds une dizaine de kilos. Ton seul environnement, c'est les quatre murs blancs de la chambre d'hôpital. Et ton cerveau, pour tenir, il a besoin d'imaginer que ces murs, ce n'est pas des murs. Et donc là, j'ai commencé à imaginer que les murs, c'était une immensité blanche, comme le lac Baïkal. Et je me suis fait un énorme tableau chez moi qui représente le lac Baïkal. Quand je suis sorti de l'hôpital, je me suis dit que ce rêve, il est vraiment resté enfoui au fond de moi. Sauf que... À l'époque, avec les problèmes urinaires, avec les problèmes de vue, avec les problèmes de jambes, il fallait réussir à compenser tout ça pour que ça puisse se réaliser, quoi.
Ensuite, tout se décide sur un quai de tram à Strasbourg. Yves Vancy, créateur de l'association Vue d'Ensemble, rencontre Nicolas. Ces deux-là, avec l'aide de Gérard Muller, 69 ans et non-voyant depuis ses 20 ans, fondateur de l'association Ivoire, réunissent une dizaine de personnes, malvoyants et non-voyants, mais aussi malentendants, autour de leur rêve. Il deviendra réalité.
Ça, c'est excellent.
On y va.
Huit malvoyants et deux malentendants passeront donc ainsi une semaine à progresser en ski sur le lac Baïkal, entièrement gelé à cette époque de l'année, et sur les montagnes qui bordent ses rives. Le but de l'expédition, faire connaître leur handicap, prouver qu'il ne les empêche pas d'agir et rencontrer les associations locales de déficients de ces sens. C'est cette histoire que nous allons vous raconter. Sur le lac gelé, l'équipe parcourra 30 km en ski de fond. Vers midi, halte, au milieu de nulle part.
Ouais, ou là, ou si la place est occupée 10 mètres là, mais...
La neige et la glace scintillent, le soleil est radieux. Dans le ciel clair, quelques nuages se déchirent et s'allongent. Nos skis et nos bâtons sont plantés dans la glace. Le temps de boire un thé chaud ou simplement de l'eau chaude, et les langues se délient.
Est-ce que tu veux
du thé, s'il te plaît?
Ah bah voilà, c'est ce que je veux savoir.
Sous nos pieds vit une espèce de phoque d'eau douce, unique au monde. Mammifères marins, ces derniers ont besoin de remonter à la surface régulièrement pour respirer. Durant les 5 mois d'hiver, où le lac est recouvert d'une épaisse couche de glace, ces phoques font des brèches à la surface du lac et les entretiennent quotidiennement pour pouvoir continuer à respirer l'oxygène. C'est le soir. Après un repas bien mérité dans cette cabane de bois, un mystère nous préoccupe tous. Comment, en fait, cette otarie particulière arrive à percer la glace pour respirer? Nul n'a la réponse encore aujourd'hui, mais cette otarie nous a rendus perplexes. Jean Nirva, plusieurs fois champion du monde de snowboard, aujourd'hui malvoyant.
Avant, j'avais la vie, tous les compteurs étaient ouverts, quoi. Je faisais la compétition en snowboard, ça marchait. J'étais deux fois champion du monde, je gagnais de l'argent, je voyageais partout dans le monde, je roulais en voiture de sport, je faisais des courses de moto, j'avais un boulot super qui me plaisait, je vis avec une fille que j'aime, tout était bien. Et puis le 21 novembre 2010, je me réveille avec un voile vert, un œil, quoi. Et puis à partir de là, c'est parti en live, quoi. Moi, c'est un peu spécial parce que moi, ça a basculé en vachement peu de temps, quoi. Donc, tu passes du tout blanc au tout noir. Et je dis volontairement du tout blanc au tout noir, parce que moi c'était tout blanc la neige à tout noir à la dépression, en 6 mois quoi. Actuellement je suis pas, je m'estime pas sorti d'affaire, mais j'ai aucun regret de ma vie avant. J'ai aucun regret de pas skier comme avant, de plus conduire des voitures de sport, de plus partir, bah si je continue à partir tout le temps dans le monde avec vous, mais je pars sur autre chose quoi. Et j'avance dans ce tunnel glauque, il y a un moment je voyais pas de sortie quoi. Alors que là je vois déjà la sortie du tunnel et tout. Et pour moi la sortie du tunnel c'est le jour où je pourrais dire cette maladie ça a été une chance dans ma vie. Je faisais l'analogie là, je réfléchissais, c'est hier on s'est posé la question, tiens mais les otaries, comment elles font pour espérer. Elles font des trous et tout, et je me suis dit mais toi t'es exactement pareil mon petit. T'as eu une grosse chape de glace qui s'est posée sur ta vie, d'un mètre d'épaisseur, et qu'est-ce que tu fais? Bah, tu fais comme l'otarie qui va chercher de l'oxygène, tu fais des trucs et tu vas chercher un peu d'oxygène avant de replonger dans les ténèbres. Et là avec vous, je fais un super trou et je prends de l'oxygène. Quoi. Et quand je fais de la musique avec mes potes, avec mon groupe de musique, je fais de l'oxygène. Et puis il y a un moment, il y aura le dégel. Donc si cette nuit dans mon sommeil vous m'entendez faire oh, 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 vous inquiétez pas.
Nous effectuerons une trentaine de kilomètres sur les pentes du mont Tcherski qui surplombe les rives du lac. Le soir, Yevgeny, notre guide russe, nous initie au banya, une tradition en Sibérie qui consiste à suer dans une cabane faite de rondins de bois et chauffée 5 heures durant à l'aide d'un poêle. Avec des branches de bouleau ou de gui, Yevgeny fouette gentiment ensuite chacun d'entre nous avant de se verser un seau d'eau froide ou mieux, de se jeter tout nu dans la neige et la glace.
Bon bah là c'est le ice bucket suspendu à 2 mètres qui se remplit d'eau gelée et là il n'y a plus qu'à tirer sur la ficelle et on voit ce que ça donne. Ah ben ça rafraîchit hein. On passe de 80 degrés à 0.
Ça revigore.
Ah c'est mieux que ça, ça détend hein.
Plus tard, en marchant sur le lac gelé, Jean Iva nous raconte sa maladie et sa manière bien particulière de la gérer.
Chez moi, là, les dépressifs vont tous se jeter du haut du barrage de Tine. Donc, moi, je suis monté voir et comme je te disais, quoi, le barrage il fait 150 mètres. Donc je pense que 20 mètres, ça suffit quand même pour mettre un point final. Donc ça fait 130 mètres qui servent à rien où tu as à gamberger. Donc ça m'a pas... Non, mais j'y suis en déconnant, mais oui. Je l'aurais pas fait parce que j'ai une fille et je me suis dit, de toute façon, la sortie, elle est forcément par le haut, elle est pas vers le bas. Ouais. Je me dis, tu fais ton rôle de père parce que... De la manière dont je gère ce handicap et cette maladie, j'envoie un message à ma fille. Quoi.
La seconde chose que tu m'as dit qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'un jour, tu as ramassé toutes tes coupes que tu avais gagnées, il y en avait beaucoup.
Je peux te dire, j'ai jamais compté, toi, je suis.
Ouais.
Mais j'ai fait 5 brouettes de coupes. Hein. 5 brouettes de coupes pleines et tout à la déchetterie. Et il faut pas rester accroché à son passé, quoi. Ouais. Tu as fait des choses, c'est très bien, et puis après, il faut pas. Ouais. Et puis, je pense qu'on vient sur Terre avec rien, il faut partir avec rien.
Un linceul, ça n'a pas de poche, quoi.
Un linceul, ça n'a pas de poche. Et je trouve pathétique les gens qui s'accrochent à leur passé. Je suis peut-être malade, handicapé, malvoyant, un peu pénible certainement des fois, mais je suis pas un has-been. Voilà, et puis après, pour moi, ce qui est important maintenant, c'est de faire des choses qui ont du sens pour moi. Et bien évidemment, qui ont changé par rapport à il y a 5 ans. C'est pas le même truc, d'être ici ça en a, de donner des lunettes à tous les gens que je rencontre ça en a parce que j'ai les moyens de récupérer ça. De discuter avec toi en marchant sur le lac Baïkal comme ça, ça en a. Sur le temps qui me reste à vivre et que je gère pas, ma priorité c'est de faire des trucs qui ont du sens pour moi et de faire mon max.
2 jours plus tard, retour sur le lac. Après une quarantaine de kilomètres de marche, une halte. L'air est pur, le soleil est toujours radieux, mais la glace nous joue des tours cette fois. Devant nous, une crevasse, une longue veine d'eau et de glace fondue nous empêche de progresser. Avec Pascal Harpin, Pierre Muller, également médecin urgentiste, est notre guide français. C'est aussi le fils de Gérard Muller.
Il y a une fracture sur la surface de la glace. Ça fait comme une espèce de crevasse qui fait à peu près 2 mètres de large, qui a commencé à regeler, mais la pellicule de glace est très fine. Elle fait 1 cm. Donc c'est hors de question qu'on progresse dessus. Donc on va la parcourir tout le long pour voir une zone où elle a regelé suffisamment, sur une épaisseur suffisamment importante pour pouvoir nous permettre de traverser.
Pendant que nos guides russes s'emploient à trouver un passage, Alice Lapujade, elle a 24 ans, atteinte de la maladie de Usher, la maladie fait qu'elle sera assurément et sourde et non-voyante, nous confie.
La dernière fois que j'ai mis les pieds sur un lac, c'était donc au bois de Vincennes, hein, j'avais 4 ans je pense. Au début on a du mal à se rendre compte que c'est un lac en fait. Et puis après, quand on voit les petites fractures un peu partout, bon, à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, je suis en train de marcher sur la Lune, carrément. Des fois, quand on voit les images de la Lune avec les petites cratères comme ça, là, c'est sympa.
Finalement, nos guides russes ont trouvé un passage et la traversée commence.
Bravo. Oui. La corde main gauche, le bâton main droite, c'est fini.
Je glisse. Prends les gens sérieux.
Et là, je vais me casser la gueule, j'ai caméras et tout.
Allez.
C'est parfait.
On sent les gens sérieux là. Hein.
Allez, c'est parti, tu t'arrêtes pas.
Yep. Elle est vraiment phénoménale.
Une fois la difficulté contournée, il faut planter les tentes car nous avons décidé de passer une nuit entière sur le lac. Pour cela, il faut d'abord sonder la profondeur de la glace, monter les tentes, couper du bois, à la fois pour se chauffer et pour faire la cuisine.
Il faut faire tenir les tentes sur la glace, c'est pas évident, on peut pas planter de sardines, donc on visse des broches à glace. Quand on n'a pas assez de ces broches à glace, on pose des blocs de glace sur les cordes qui tiennent la tente. Voyons que Jean il me ramène une table de 30 kg de glace, là. Ça va être suffisant pour glacer quelques vodka ce soir. Ça.
Ouais, je pense, ouais.
On s'accrochait à ça.
Nicolas Linder, je crois que... Nicolas, c'est bon, on va garder celle-là pour le pastis. Je te remercie pour ce bel effort. Mais
oui, je peux te raconter cette histoire, cette anecdote du Pôle Sud.
Il y a peu de temps, j'étais au Pôle Sud, là, accompagné des gens en expédition. Et arrivé au Pôle Sud géographique, il y a au magnétique, il y a une boule dans le cristal là, qui matérialise le pôle. Et elle a eu la grande idée d'embrasser cette boule un jour où il faisait moins 40 ou moins 42. Et ses lèvres sont restées collées à la boule. On nous a pris beaucoup de temps pour la décoller de cette boule.
Et comment on fait dans ces cas-là alors ?
Elle a salivé, on a versé un peu d'eau chaude. On a eu peur de faire exploser la boule en versant dans l'eau du thermos. Et elle a laissé un peu de son bisou et de ses lèvres sur la boule de cristal.
Au crépuscule, dans une lumière orange, au milieu de nulle part, entouré par la glace qui scintille encore par endroits, nous prenons notre repas. Depuis, Nicolas, notre barbu de toujours, a rasé sa barbe pour permettre à Daniel et Françoise, malentendants, de lire sur ses lèvres. Daniel et Françoise, pour leur part, nous apprennent les rudiments du langage des signes.
Par exemple, ces scènes où Françoise guide Gérard, j'ai envie de le raconter à la terre entière, en fait. Et j'ai envie de leur raconter au sein de la communauté des personnes qui ont le syndrome du Cher, parce que beaucoup de personnes voilà, non-voyantes, malvoyantes, disent c'est impossible de communiquer avec un sourd, c'est impossible d'apprendre la langue des signes. Bon, Gérard ne connaît pas encore la langue des signes, mais j'espère que peut-être un jour il pourra.
Ah oui, il sait dire la vodka, la langue des signes.
Voilà.
Même en cyrillique. Attends, même plus loin, il a même inventé.
Nadia, elle, a 33 ans. Elle est malvoyante et a du mal à sortir sa canne blanche sans que celle-ci n'altère sa féminité.
Cette histoire de canne, ouais. C'est c'est que ça m'a bloqué, moi, cette histoire de malvoyance dans ma vie perso, quoi. Ça m'a complètement bloqué. Et je pense qu'en effet, n'est-ce pas, Mumu, le jour où j'afficherai mon machin, je pense que j'aurai...
Le jour où
j'afficherai avec la canne, etc., et que ce sera la paix, avec que j'aurai fait la paix avec ce truc-là.
Et mais tu n'as pas encore fait la paix.
Pas complètement, je la sors jamais. Enfin, si, je la sors,
mais pourquoi tu la sors pas?
Parce que j'oublie.
T'oublies quoi? Non.
Mais je t'assure.
Là, tu racontes ça à n'importe qui, mais pas à moi. Alors là, si tu veux dire que tu l'oublies.
Non, mais j'oublie. Non, mais c'est-à-dire qu'elle est dans mon sac.
Bah ouais, mais alors tu la erres, quoi, c'est tout.
Non, mais c'est que je me dis, tiens, là, j'en aurais besoin, là.
Et tu la sors pas?
Non, je me dis là.
Parce que tu fais la coquette.
Non, et par contre, du coup, maintenant, quand je la sors que quand je mets du rouge à lèvres.
C'est vrai?
Ah,
c'est vrai?
Ouais.
Mais pourquoi?
Bah, c'est un secret, hein, faut le dire à personne.
Non, mais là, je le dirai à personne, redis-moi ce que tu viens de me dire, je te promets.
Non, c'est-à-dire que quand je la mets, je mets un point d'honneur à mettre du rouge à lèvres. C'est con, hein, ça va passer, hein. Ça va passer, c'est un début. C'est un début. Bah ouais, parce que je trouve que c'est. Faut être joli avec ce truc-là.
Petite côte et après le petit plat.
Le lendemain, il faut lever le camp. La nuit a été fantastique. L'aventure se termine. Pierre, notre guide français, le fils de Gérard Muller, donc, ne cache pas son émotion.
Pierre, tu as été le chef de cette expédition.
Ouais.
Et en même temps, tu as emmené ton papa jusqu'ici au lac Baïkal. Est-ce que c'est toi qui as amené ton papa ou c'est ton papa qui t'a amené?
Ouais, c'est lui qui m'a amené, hein, ça c'est sûr.
C'est vrai.
Ouais. On est contents et fiers l'un de l'autre, moi de lui, lui j'espère un peu de moi. Et puis voilà, on se fait un cadeau tous les deux, ouais, on est contents tous les deux d'être là. Je pense que moi je suis content, je réalise bien la chance que j'ai de pouvoir faire un truc encore avec mon père alors que j'ai 46 ans. Et de faire une aventure comme ça avec lui à mon âge, c'est une chance, donc j'en suis bien conscient. Et le message, c'est sortez de chez vous, n'ayez pas peur, entreprenez, préparez-vous, et puis ayez des projets à la mesure de vos rêves, de vos ambitions, et puis pour les réaliser, préparez-vous correctement. Je crois que c'est vraiment là, le message qu'il faut faire passer à toute la communauté des handicapés. Il faut que les malvoyants... dynamique comme mon père transmettre ce message.
C'est un moment où tu as été ému quand tu as vu ton père évoluer.
J'ai été ému, j'ai été ému à plusieurs reprises, j'ai été ému de le voir ému, j'ai été ému d'entendre qu'il servait d'exemple à toute cette jeune génération de malvoyants et que son parcours leur serve un petit peu d'exemple, le chemin qu'il a fait pour accepter sa maladie et puis pour entreprendre des choses, ça m'a beaucoup ému. J'ai été ému aussi de voir Nicolas, j'ai été très ému par Alice et par tout le monde en fait, par Jean et tous les compagnons, ouais, chacun avec son histoire, son parcours et son ressenti m'a marqué, ça a remué, ouais. Ouais.
Et en même temps, eux qui sont non-voyants, ils nous ont montré des choses. Hein,
on est d'accord, ouais, exactement, ils nous ont montré plein de choses, ils nous ont montré la voie de la persévérance, de la bonne humeur,
du courage
ouais.
De la joie, parce qu'on n'a pas arrêté de rire.
On a beaucoup ri, ouais. Ouais, c'est clair.
Depuis, les rêves et les projets se multiplient. Gérard est retourné au Burkina Faso. Jean Nerva, pour sa part, fait des randonnées dans les Alpes et au Népal, en continuant à distribuer des lunettes de protection. Nicolas et Alice retourneront à Irkoutsk pour initier les malvoyants locaux à l'usage des cannes électroniques. Traversée du lac Baïkal, une expédition inédite par des non-voyants et des malentendants, un grand reportage de Toufik Benaïchouch, réalisé par Eva Moshinsky.